indexation à 5,8 ne dégrèvera jamais nos stock options.
On va juguler les réajustements périodiques du cash flow.
Attendez, j'y comprends plus rien là, c'est trop rapide pour moi, j'ai mal à la tête.
Pour être un petit peu plus clair, les OPA de la BE ne stoppent pas les PCI à 0,16 TTC proposés par le CNDA à la SMJC. Je dis foncez, il n'y a aucun risque.
Bienvenue dans Splash, le podcast qui jette un pavé dans la mare de l'économie. Je suis Laurine Melka, professeure d'économie à Tourcoing, et deux fois par mois, je m'attaque franco avec vous à des questions économiques qui dérangent. Ici, pas de théorie fumeuse, on part à la rencontre des individus qui font l'économie contemporaine. Bref, cette émission, c'est comme une appli de rencontre après une rupture, on y revient toujours. Chères auditrices et auditeurs, je suis très heureuse de vous retrouver après deux mois d'absence pour deux épisodes de Splash afin de conclure la saison. Je suis de nouveau en compagnie de Léa Lejeune, journaliste à Challenge. Bonjour Léa.
Bonjour Laurine.
On a décidé de vous parler d'un sujet léger qu'on avait préparé avant la crise. Et parce que c'est un secteur économique qui n'a pas beaucoup faibli pendant le confinement. La rencontre en ligne.
Dur dur de subir le célibat involontaire. Et c'est encore plus pénible en période de confinement. Il faut tout faire solo, enfermé dans un petit deux pièces ou un studio. Quand les bars, les boîtes de nuit et les bureaux sont fermés, eh bien, il n'y a plus beaucoup d'occasion de rencontrer quelqu'un. Alors, pour patienter sans se frustrer... On chine, on swipe, on match, on entame des conversations, on en ghoste d'autres. J'ai cherché à comprendre combien gagnent ces applications sur nos espoirs sentimentaux et pourquoi nous sommes attirés par ces nouvelles formes de rencontres virtuelles dont on se moquait autrefois. Pourquoi faisons-nous confiance à un algorithme pour trouver notre moitié? J'ai souhaité répondre à une question que tous les utilisateurs déçus se sont posés au moins une fois.
Faut-il payer pour trouver un mec ou une meuf ?
Tinder, Bumble, OkCupid, Appen, toutes ces applications de rencontres caracolent en haut des classements des téléchargements. Et les internautes sont de plus en plus tentés d'ouvrir leur portefeuille pour trouver des amants et des âmes sœurs. Mais alors, qui paye? Et comment cela repose sur les rapports stéréotypés de genre?
Pour cet épisode, nous nous sommes concentrés sur les personnes de 20 à 40 ans, car elles ont des problématiques assez similaires de recherche de partenaires. Pas encore de divorce à gérer, rarement des enfants. Nous nous sommes cantonnés aux applications et profils hétérosexuels, nous nous en excusons, pour capter ce que leur modèle économique implique en matière de rapport homme-femme. Ce modèle qui reproduit ou accentue les dynamiques de rapports sociaux de genre.
Ça fait un petit moment que les sites de rencontres, les ancêtres de ces applis, existent. Le premier service numérique, c'était Match.com. Il a été lancé aux États-Unis en 1995 par une entreprise qui s'appelait Electric Classified Inc., et qui s'inspire des petites annonces amoureuses publiées dans les journaux.
J'allume mon ordinateur. Je me connecte.
Bienvenue.
Ma respiration se bloque jusqu'à ce que j'entende ces quatre petits mots. Vous avez un message.
En France, ce service est proposé par l'historique Mythique, monté en 2002 par le serial entrepreneur du web Marc Simoncini. Il dit juste avoir repéré un business model formidable. À l'époque, ça fait déjà 300 millions de dollars de revenus. Pas très original, il a repris tous les codes standardisés. Des profils d'utilisateurs avec une grande photo et un pseudo, une annonce textuelle, un tarif élevé de 30 euros par mois pour les Roméo et Juliette les plus motivés. Le design est épuré pour transmettre une image de sérieux, à même d'appâter celles qui hésitent, les femmes.
Mais rares étaient celles et ceux qui assumaient flâner et batifoler dessus.
Avant, dans ma tête, les gens qui utilisaient ce genre d'application, c'était plutôt des gens comme ça.
N'ayant pas trouvé l'amour dans les agences matrimoniales, je tente ma chance sur Tinder ainsi que Appen. Vivant chez ma mère à l'âge de 43 ans, je ne vous cache pas que j'aimerais bien me dépucer le zizi.
Pourquoi ? Parce que dans l'imaginaire romantique, la rencontre amoureuse doit être le fruit du hasard. C'est une idée reçue, bien sûr. La sociologie a montré que la majorité des coups de foudre se font dans des endroits qui favorisent l'homogamie sociale, c'est-à-dire les unions entre personnes de même classe sociale ayant reçu souvent la même éducation. La rencontre se produit le plus souvent sur le lieu de travail ou d'études, puis dans les soirées entre amis, ensuite dans les lieux publics. La rencontre en ligne n'arrive qu'en quatrième position, selon la dernière enquête EPIC, étude des parcours individuels et conjugaux, de l'INED et l'INSEE sur 2013 et 2014.
Le célibat est en augmentation et concerne une personne sur trois. Les applications sont donc une innovation sociale dont on a vraiment besoin, un besoin de marché.
Les systèmes trouvent toujours le partenaire parfait parce que ça marche vraiment.
Un nouveau partenaire.
À l'image de leur ancêtre Grindr, l'application pour les rencontres gays rapides. Elle repose sur l'usage généralisé du smartphone, mais aussi sur un profil simpliste avec une grande photo et sur les technologies de géolocalisation. De quoi démocratiser la rencontre en ligne? Fondé en 2012, Tinder est la référence, l'inspiration. Il repose sur deux principes majeurs. D'abord, le swipe. C'est le fait de balayer les profils vers la droite pour dire « j'aime », vers la gauche pour dire « j'aime pas ». Et sur le match, c'est-à-dire l'attraction réciproque de deux personnes. une validation qui donne le droit de se parler. La journaliste Judith Duportail, autrice de l'essai « L'amour sous algorithme », nous donne sa recette.
J'ai étudié le fonctionnement de Tinder et donc en même temps son modèle économique qui fonctionne très très bien, hein, parce que Tinder c'est l'application la plus rentable de l'Apple Store et c'est 50% du chiffre d'affaires de Match, sa maison mère, qui détient quasiment tous les sites de rencontres dans le monde. Alors ça fonctionne sur un modèle qu'on appelle freemium, ça veut dire que c'est gratuit pour s'en servir. Mais si on veut débloquer des utilisations plus poussées ou plus avancées, avoir des bonus, etc., là, il faut payer. Donc en clair, tout le monde peut utiliser Tinder, c'est gratuit. Mais si vous voulez soit être boosté par l'algorithme, soit pouvoir liker plus de personnes, soit pouvoir voir avant les autres qui vous a liké, soit avoir des propositions personnalisées chaque jour de personnes à matcher, là, vous pouvez payer pour Tinder Gold. Et ça marche très très bien parce que du coup, il y a quand même 5 millions d'utilisateurs payants dans le monde de Tinder.
C'est même 6 millions aujourd'hui. Presque toutes les apps optent pour ce modèle économique et des tarifs beaucoup plus bas que les sites d'antan. L'un des buts est évidemment de démocratiser la rencontre. Avant le confinement, je suis allée rencontrer dans ses bureaux du Sentier à Paris, Didier Rapaport. C'est le fondateur de l'application française qui rivalise avec les plus grosses américaines. Appen a 85 millions d'inscrits dans le monde. 2 millions d'accros quotidiens et il repose aussi sur le modèle freemium. Pourquoi a-t-il éliminé d'emblée le modèle du gratuit qui repose sur la publicité ?
Il y a une contradiction extrêmement importante entre le service de rencontre et la publicité. En fait, si vous voulez de la publicité qui vous rapporte de l'argent, cette publicité, elle doit être ciblée. Elle doit être ciblée sur un tas de critères, y compris des critères de comportementaux, etc. Ce qui veut dire quoi ? Ce qui veut dire qu'on va être obligé d'utiliser de la data. Okay ? Or, on est sur un service de rencontre, on parle de l'intimité des gens, on parle de l'intime des gens, et je ne pense pas que les gens soient d'accord à ce que cette data soit utilisée pour afficher de la publicité. Donc pour moi, il y a une vraie contradiction entre un modèle gratuit basé sur la publicité dans une application de rencontre. Parce que ça signifierait que la data de nos utilisateurs serait utilisée pour la publicité.
A priori, le business model semble donc bien huilé. C'est sans compter un marché très spécifique, où les sentiments, les égos et les rapports de genre s'entremêlent. Premier problème, sur une même application, deux demandes se côtoient. Certains cherchent une histoire d'amour, d'autres veulent la chope, le flirt ou le plan cul.
Jeune demoiselle recherche un mec mortel. Un mec qui pourrait me donner des ailes, un mec fidèle et qui n'a pas peur qu'on l'aime. Donc si t'as les critères, babe, laisse-moi ton email.
Autre souci, les deux publics insatisfaits. Car il faut dénouer comment les stéréotypes sexistes influencent les expériences de chacun et le business model de ces applis.
Les premiers perdants, ce sont les hommes. Ceux qui doivent faire le premier pas. Séduire celles qui attendent qu'on vienne les chercher. Et scoop, c'est justement à cause de nos rapports de genre. Pour comprendre en quoi les expériences des hommes et des femmes diffèrent, Judith Duportail s'est associée avec le data journaliste Nicolas Kaiser-Brill dans une enquête surprenante publiée dans Le Monde l'été dernier.
On a essayé d'évaluer la différence du taux de succès, le success rate en anglais, entre les hommes et les femmes sur Tinder. Pour ce faire, on a procédé à une soirée don de données où des personnes sont venues bénévolement se connecter à un programme que Nicolas avait construit pour nous permettre de capter en fait, les données qui voyageaient entre leur téléphone et les serveurs de Tinder en temps réel, quoi, pour qu'on voit ce qui se passe et donc du coup pour voir quelles étaient leur success rate. Ce qu'on a découvert ce soir-là et des résultats qu'on a fait vérifier par des data scientists qui les ont recalculés dans tous les sens, c'est que le taux de succès moyen d'une femme sur Tinder, c'est 50%. Et le taux de succès moyen d'un homme hétéro, c'est 2%.
Mais qu'est-ce que ça crée comme différence d'expérience entre les hommes et les femmes ? En quoi ça joue sur leur rapport ?
Les femmes, aujourd'hui, quand elles sont connectées à Tinder, donc elles ont un taux de succès moyen de 50%, et elles reçoivent toutes énormément de messages, énormément de sollicitations. Et parmi ces messages, beaucoup de messages vulgaires, beaucoup de messages sexuels, mais pas sexy, quoi, sexuels, agressifs, beaucoup d'insultes, beaucoup de messages misogynes. Et du coup, Quand n'importe quel message qu'elles reçoivent, qui est même tout gentil, tout banal, elles sont déjà sur la défensive, comme n'importe qui le serait dans ce cas-là. Et de l'autre côté, les hommes, c'est encore eux beaucoup qui font le premier pas sur les applis comme Tinder. C'est ce que montrent les études sociologiques. Et ils envoient beaucoup de messages et ils reçoivent en réponse beaucoup de silence, le vide. Un vide que beaucoup finissent par interpréter comme du rejet. Et au bout d'un moment, eux aussi finissent par être sur la défensive. Ce qui fait que quand un homme et une femme se parlent sur Tinder, avant même que la conversation ait commencé, avant même qu'ils aient fait connaissance, avant même qu'ils aient une idée de qui est la personne en face d'eux, les deux sont épuisés.
Parmi ces hommes, les moins satisfaits sont ceux qui ne correspondent pas aux critères de beauté, de virilité, de réussite sociale et professionnelle. Dans son dernier ouvrage, « La fin de l'amour », la sociologue israélienne Eva Illouz a développé une théorie dans laquelle les applications de rencontres reposent sur un nouveau marché néolibéral de la sexualité, dans lequel il y a des perdants, les moins séduisants, qui doivent cependant faire le premier pas. De loin, ça rappelle un peu la thèse de Welbeck dans « Extension du domaine de la lutte ». Mais ça implique quoi, Laurine ?
Comme dans les boîtes de nuit, ce sont souvent les hommes qui payent. Au contraire, ces applis font de la publicité ciblée sur les réseaux sociaux pour attirer les jeunes femmes, qui ne constituent qu'un tiers des inscrits, selon Marie Bergström. En 2013, 45% des hommes ayant fréquenté un site de rencontre avaient déjà payé pour bénéficier de services premium, contre 18% des femmes. Les concepteurs de ces applis le savent bien et construisent leurs algorithmes en fonction. Alors que faire la cour prenait du temps et jouait sur l'imagination, le dating est foncièrement capitaliste. Les hommes sont déjà habitués à dépenser pour les verres, les fleurs, le restaurant et autres activités propices en début de love story. C'est un autre pan des inégalités de genre. Judith Duportail nous a raconté le mode de fonctionnement précis et abusif de Tinder.
Ce que m'ont expliqué les personnes qui ont travaillé dans ces entreprises, dans cet univers, c'est que sont identifiés les types d'hommes qui sont susceptibles de payer. On va dire que c'est des hommes à partir d'un certain âge, ça veut dire qu'ils travaillent, donc ont un peu des revenus, etc. Et ce qui se passe, c'est que ces hommes-là, leur profil va être tout simplement caché. Donc ça veut dire qu'ils n'ont aucun match, aucun like, parce qu'aucune femme ne verra leur profil. Et le jour où ils vont se décider à payer, eh ben, leur profil va être mis extrêmement en avant, soit s'ils sont très peu désirables, pardon pour ces messieurs-là, leur profil va être boosté pour qu'ils soient beaucoup vus, donc dans ce cas, ils auront quand même de quoi avoir des matchs et des conversations, etc. Soit ils vont cesser de le cacher et ils vont vivre une vie, ils vont avoir une vie normale, quoi.
Par vie normale, elle veut dire des matchs de temps en temps, comme tout le monde. Cependant, Appen ne joue pas à ça, selon son PDG. Sur la petite appli Frenchie, la tranche d'âge qui se convertit le mieux en abonnés est jeune. C'est celle des 25-35 ans, majoritairement des hommes, mais pas uniquement. En moyenne, l'application convertit 5% de ses utilisateurs. L'entreprise réalise plusieurs dizaines de milliers d'euros de chiffre d'affaires, mais refuse de le communiquer pour laisser ses concurrents dans le flou. C'est un classique dans l'univers des startups. Elle est cependant rentable depuis un an.
L'autre piste de développement, c'est peut-être de segmenter le marché par sous-catégorie. À Lille, j'ai repéré des grandes affiches de celibnor.com.
Et là, c'est une fausse bonne idée. Imaginez parce que le marché des sites de rencontres est soumis à un niveau de concurrence très fort. Les entrepreneurs optent pour une concurrence latérale plutôt que de s'attaquer frontalement à des entreprises déjà bien implantées. Ils se positionnent sur des niches spécifiques. Dans les années 2000, c'était la politique, par exemple, avec droite rencontre et gauche rencontre.
En fait, moi, dans la vie, les mecs de droite, je les nique. C'est moche chez toi. Mais tu vois, quand je te dis je les nique, je veux dire je les nique vraiment. C'est pas métaphorique, quoi.
Il y a aussi la spécialisation religieuse, comme Mektoub, pour trouver des partenaires musulmans d'origine maghrébine. G-Swipe, réservé à la communauté juive. Ça marche seulement quand le critère mis en avant est réellement considéré comme sélectif, voire exclusif par les utilisateurs. Un autre créneau spécialisé vise les infidèles, comme Glidden. Vous vous souvenez les publicités, là, suggestives dans le métro, avec une femme qui croquait le fruit défendu de la relation extra-conjugale ? Eh bien, elle a fait un flop en 2015 suite à un piratage de données des utilisateurs. Rien de pire pour un site de rencontre intime.
Il existe une autre piste de spécialisation, celle des sites et applications réservés aux élites. L'entrepreneur français Ludovic Hureau a lancé en 2009 Attractive World, le site pour célibataires exigeants. Vous vous rappelez celui où tout postulant devait être coopté par les abonnés en fonction de son physique ou de son niveau de revenu. Qui dit positionnement haut de gamme dit prix élevé. L'abonnement coûte 60 euros par mois.
Il y a aussi l'appli Once qui mise sur le slow dating, c'est-à-dire le fait de ne proposer qu'un seul profil par jour. Eh bien, ça ne décolle pas parce que son innovation est justement à l'opposé de l'ADN des services de rencontres. Il faut une masse critique d'inscrits pour proposer régulièrement des rencontres et puis satisfaire les clients. De l'extérieur, toutes ces applis ont l'air de marcher. Mais ces challengers demeurent des entreprises de taille modeste, très discrètes sur leurs chiffres. Le taux de mortalité de ces services est très fort. En 2008, un inventaire en recensait plus d'un millier actifs en France. Il n'y en a plus que quelques grosses dizaines. Reste à savoir comment ces entreprises appâtent et satisfont leur public.
Pour éviter le churn, c'est-à-dire le départ des utilisateurs vers des concurrents, pour rendre accros les célibataires, Ces applications ont misé d'abord sur la gamification, c'est-à-dire les similarités avec les jeux vidéo.
It's a Mario time! Let's go!
Pas étonnant, la plupart des concepteurs sont des informaticiens basés dans la Silicon Valley, des jeunes hommes hétérosexuels dans leur majorité. Didier Rapaport se refuse à utiliser le swipe, qui va trop loin selon lui. Mais sinon, il ne déroge pas à la tendance.
On le gamifie parce qu'aujourd'hui, dans les codes et dans les usages de la mobilité, la gamification est une chose qui est demandée. Et si on ne gamifie pas, et ben les gens ont du mal à rester. Vous savez, l'utilisation d'une app, elle est très simple. On a un churn le premier jour qui est extrêmement important. C'est-à-dire un nombre de personnes qui arrivent sur l'app et qui ne reviendront plus jamais après leur première visite. Et ça, tous les éditeurs d'applications sont obligés de travailler ça. C'est-à-dire, ça nous coûte extrêmement cher d'acquérir des utilisateurs, puisqu'on fait beaucoup de marketing, et il est évident qu'on ne veut pas que les gens repartent. Or, ne pas repartir, c'est pas machiavélique. C'est simplement qu'on veut que les gens puissent s'apercevoir, dès la première visite, que le service qu'on leur rend est un service réel. Donc, oui, on fait attention au design.
Tinder a poussé le vice jusqu'au bout en établissant un système de notation très précis. Judith Duportail le décrit, c'est le Elo Score, du nom d'un mathématicien, Arpad Elo, qui avait inventé un système de classement des joueurs d'échecs. Transposé à la rencontre, c'est un système qui permet d'évaluer la note de désirabilité de chacun. Quand on match avec un profil à succès, on gagne beaucoup de points. Mais quand on perd contre un joueur médiocre, la cote baisse en flèche. D'autres facteurs s'y ajoutent, un petit peu surprenants.
Ce que je raconte dans mon enquête, c'est que je mets la main sur le brevet de Tinder, donc, qui décrit ce système de notation et de matching extrêmement sophistiqué. Et dans ce document, il est expliqué très très clairement sur quels critères on est évalué. Donc il y a la beauté physique, mais pas du tout seulement. Il y a aussi notre quotient intellectuel qui peut être évalué à partir de nos messages, la vitesse à laquelle on écrit, le nombre de mots compliqués qu'on emploie par phrase et le nombre de mots qu'on emploie par phrase, le nombre de syllabes dans nos mots.
D'après ce brevet, on est aussi évalué sur notre niveau de diplôme, sur notre niveau de revenu. Des informations qu'on fournit nous-mêmes, souvent par notre profil Facebook, indirectement. Ensuite, les concepteurs ont fait des choix de design aux implications très politiques. D'abord l'aspect esthétique de l'application, qui repose sur des couleurs chaleureuses qui donnent envie de cliquer. Mais aussi une manière de circuler dans les profils qui encourage la rapidité avec le fameux swipe. La journaliste m'a raconté ce que ça implique. Par exemple, les recherches en neurologie montrent que notre cerveau est calibré pour repérer le danger, ou savoir si on est en sécurité rapidement. Quand on passe 2 minutes par profil en moyenne, notre cerveau fonctionne de façon primaire. Moins nous avons d'informations sur une personne, plus les détails anodins prennent de l'importance. Une faute d'orthographe dans la bio, dégagée. Une photo d'homme qui pose avec un tigre en voyage, quelle beauf, dégagée.
T'as d'autres exemples ?
À chaque match, le cerveau dégage une petite dose de sérotonine, l'hormone du bonheur. C'est comme si on gagnait des points à Candy Crush, en fait. Ça peut paraître anodin, mais le mécanisme est très puissant. Et renforcé par nos failles narcissiques, nos problèmes d'ego, le fait qu'on a besoin d'être flatté, hein, surtout après une rupture. L'autre piste qui nous rend aussi accro à Facebook et Instagram, c'est le mécanisme de la récompense aléatoire. Ça fonctionne un peu comme sur les machines à sous. À chaque match, on va vérifier frénétiquement dans son téléphone si c'est un profil de qualité, des cerises ou des dollars.
Ce marché est finalement confronté à un paradoxe très spécial. Un client heureux, quelqu'un qui a eu un vrai coup de cœur, qui a rencontré le binôme de sa vie, bah c'est un client qui part. Et les applis, comme dans n'importe quelle industrie, préfèrent les clients qui restent.
C'est peut-être pour cela que les applications n'ont pas si mal vécu le confinement. Comme les rencontres IRL n'étaient plus possibles, elles n'étaient plus confrontées à la plus grande des concurrences, les rencontres IRL in real life. Et elles disposaient d'un public captif. On a rappelé Didier Rapaport quelques minutes pour des précisions. Une interview par téléphone au son moins audible, mais qui respecte toutes les règles de la distanciation sociale. Alors, est-ce qu'Appen a pâti du confinement ?
Est-ce qu'Appen a pâti du confinement ? C'est beaucoup dire. Il y a eu, au début du confinement, lorsqu'il y a eu les premières annonces gouvernementale, manifestement un peu moins d'audience, une histoire de 15 jours, parce que je pense que les gens avaient autre chose à penser qu'à dater. Très vite, les gens sont revenus sur l'application. 43% d'entre eux admettent même, pendant ce confinement, avoir changé leurs habitudes de dating. Et par exemple, envisager de manière bien plus forte qu'auparavant d'utiliser pour un premier rendez-vous un chat vidéo.
Financièrement, que s'est-il passé ?
Également, une légère baisse de nos revenus, une un peu moins bonne conversion de nos utilisateurs en membres payants, mais c'est une tendance qui est finie à ce jour.
Revenons-en à nos catégories délaissées des applis. L'autre groupe, plus inattendu, ce sont les femmes, trentenaires ou quadragénaires, pas désagréables à regarder, à l'aise avec leur corps, intelligentes et dotées d'un job sympa. Des femmes un peu comme Judith, mes amis et moi, non ? Bon, on a vu que l'expérience était éprouvante pour elles, hein, mais ce n'est pas tout. En fait, les femmes d'une trentaine d'années en recherche d'un partenaire amoureux sont tout en bas de l'échelle sociale du dating.
Pourquoi ?
D'abord parce que, pour les hommes, le capital sexuel, qui se traduit par l'accumulation des aventures sexuelles, eh bien, c'est un attribut valorisé de la masculinité contemporaine. Cela entre en contradiction avec une forme d'identité féminine, plus tournée vers l'affectif et la relation. Moi, j'appelle ça le dilemme de Carrie Bradshaw et Mr. Bean.
You can have the guts and the courtesy to tell a woman to her face that you no longer want to see her. Call me crazy, but I think that you can make a point of ending your relationship in a manner that does not include an email, a doorman, or a missing persons report.
Dans l'enquête INAD-INSEE de 2013 et 2014, ce sont surtout les femmes des classes aisées et urbaines qui souffrent du manque de relations stables. D'abord parce que le poids de la norme est fort. Entre 30 et 34 ans, plus de 4 personnes sur 5 se disent en couple. Seuls 22% des personnes restantes se disent heureuses de leur situation, les irréductibles gauloises et gauloises. Ensuite, parce qu'il y a plus de femmes diplômées du supérieur que d'hommes. En 2018, parmi les femmes de 25 à 34 ans, elles étaient 49% à avoir un diplôme du supérieur. Chez les hommes, c'était 38%, d'après le ministère de l'Éducation. On est donc face à un problème économique classique. En matière d'amour, l'offre et la demande ne se rencontrent pas. Bien sûr, ces jeunes femmes peuvent prendre du plaisir dans la sexualité en enchaînant les conquêtes, mais cela n'empêche pas qu'elles souffrent des conditions générales de l'hétérosexualité contemporaine. C'est donc une catégorie qui se décide de plus en plus à payer pour améliorer son expérience.
Tous les hommes ne sont pas mal lotis. Il existe une élite masculine au sommet de la pyramide du dating. Les études montrent que le top 20% des hommes inscrits concentre 80% de l'attention des femmes. Ce sont ceux qui correspondent aux critères de beauté majoritaires. Visage symétrique, très masculin, silhouette athlétique, le plus souvent de type caucasien, et qui ont choisi de belles photos. Les informations personnelles étant rares, ils ont quand même précisé avoir un diplôme ou un emploi stable. Ceux-là reçoivent beaucoup de sollicitations et d'attention, au point d'avoir l'impression qu'il y a toujours une autre femme disponible, une mieux.
Tout à fait. J'en ai justement rencontré un en septembre dernier sur l'application Bumble.
Nous les coureurs impénitents, nous les dons juju, nous les dons Juan.
Appelons-le Jules, frais trentenaire, séduisant. Il a des yeux magiques et il prend soin de son corps. Il a validé 2 bacs plus 5, il est doté d'un solide capital culturel. Bien éduqué, il paye régulièrement l'addition au bar, tout en ayant intégré les questions d'égalité femmes-hommes. Évidemment, c'est un bon amant, sinon ce serait pas drôle. Il n'a qu'un minuscule défaut. Il mesure 1m75, alors que les Françaises préfèrent les hommes d'1m80. Jules utilise plusieurs applications. Il s'est tiré son épingle du jeu. Il a posé une photo de lui en costume, genre gendre idéal, et une torse nu, on le voit qu'il fait du sport. Il n'a pas fait exprès, mais c'est exactement ce que conseille la sociologue de Tinder. Jules ne remplit pas sa biographie. Il précise seulement qu'il ne fume pas, fait du sport, boit peu, et ne cherche pas quelque chose de sérieux.
J'ai choisi les photos en fonction de l'image que je voulais donner de moi et celle où je me trouve beau. Sur certaines, il y a des choses qui sortent de l'ordinaire, des choses qui se passent. Une où je suis élégant en smoking, une où on voit la façon dont je m'habille au quotidien. J'essaye de me montrer sous mon meilleur jour. Je me lance en premier, car les filles attendent que ce soit nous qui parlions. J'écris une phrase différente à chaque fois, personnalisée, la base pour lancer une conversation. Je dis rapidement que je ne cherche pas de relation sérieuse, je ne tourne pas autour du pot. Soit la jeune femme recule et heureusement qu'on s'en est parlé de suite, soit on sait qu'on est sur la même longueur d'onde.
Jules est malin, il a donc plutôt conscience de la manière dont les applications sont faites.
Je trouve que l'ergonomie des applications, le swipe surtout, sont de superbes inventions. Tu utilises tes doigts pour faire dérouler les images, tu passes par des situations de gratification, tu ressens des vibrations. Le jeu vidéo mobile procure les mêmes sensations de valorisation, de stimulation. J'ai déjà utilisé les fonctions payantes comme les super likes. J'avais le sentiment que ça attirait beaucoup l'attention, que mon profil remontait mieux. Je les destine à des profils qui me plaisent beaucoup.
Son honnêteté peut surprendre, puisqu'une majorité des femmes sur les applications de rencontres cherchent une relation dite sérieuse. Moi, je l'avais trouvé plutôt fair-play, mais est-ce que ça marche avec les autres ?
Assez, oui. Je passe une cinquantaine de profils par jour. J'ai 5-7 matchs. Je pose quelques questions, je discute, je vais regarder les profils Insta des femmes, je trie. Je m'assure ainsi que le date soit concluant. Je veux passer un bon moment. Je pense que j'ai fait 120 rencontres en 5 ans. J'ai dû conclure avec une centaine d'entre elles. Je suis satisfait de mon expérience. Je suis motivé par un appétit sexuel basique. L'envie s'amenuise après la première fois. C'est pourquoi je continue comme ça.
Et c'est même le lieu d'une nouvelle inégalité de genre, selon Eva Illouz. À notre époque, la personne la plus détachée est celle qui détient le pouvoir sur l'autre. Celui qui refuse de s'engager, donc l'homme le plus souvent, a gagné face à la femme qui lui court après. L'esprit critique de Jules ne s'est pas aventuré sur ce terrain-là. Peut-être parce qu'il n'a pas vraiment envie de changer ses habitudes coquines. Pour lui, Tinder, c'est pas fait pour ça. Il commence à peine à se dire qu'il pourrait faire une vraie rencontre là-dessus. J'espère qu'un jour, il lira le bouquin d'Eva Illouz.
Oui, car elle raconte aussi que la mécanique du désir s'accommode mieux de la rareté. Elle donne de la valeur à un bien, mais aussi à un être humain. Alors qu'avec ces applis, nous pouvons avoir des relations sexuelles avec tout le monde. Jules et les autres se comportent en consommateurs. Ils n'approchent plus leur partenaire potentiel sur le mode épiphanique de l'amour, mais sur l'effet d'une évaluation ou d'une comparaison. Selon la sociologue, sur Tinder, on est dans le non-choix, le non-amour, le non-engagement. Centré sur lui-même, l'individu qui pousse la logique à fond n'arrive plus à être pris dans des schèmes sociaux et moraux qui l'engagent dans la durée.
Si je résume bien, dans cet épisode, on a appris qu'il ne sert à rien de bouder les applications de rencontres. Pourtant, il ne faut pas trop en attendre. Car elles reproduisent, voire accentuent les rapports de genre et de classe. Elles créent un marché sexuel et amoureux où l'offre et la demande ne se rencontrent pas assez. Alors faut-il payer pour trouver un mec ou une meuf ? Eh bien, c'est conseillé si on fait partie des deux catégories qui ont du mal à conclure. Un homme qui ne correspond pas à tous les critères de beauté et de réussite pour contrer les dures lois de la jungle numérique. Ou bien si on est une femme de 30-40 ans qui recherche le perfect match. Sans jamais oublier que les chances de succès sont minces, les bons points et la gamification favoriseront toujours les rencontres éphémères. Les algorithmes ne peuvent pas tenir les promesses que même la vie réelle ne tient plus vraiment.
Rendez-vous au prochain épisode de Splash pour jeter un pavé dans la mare. Rien de mieux pour se muscler les idées. Splash est une idée originale d'Étienne Tabag. Cet épisode est écrit et animé par Laurine Melka, co-animé par Léa Lejeune, produite par Nouvelles Écoutes. Montée et coordonnée par Marine Rowe, mixée par Laurie Galigani. Pour vous pencher sur les études, les chiffres et références entendus dans l'épisode, ils sont à retrouver dans la description de l'émission et sur le site de Nouvelles Écoutes en vous rendant sur la page de Splash. Vous pouvez retrouver Splash sur Twitter, Splash Podcast tout attaché, et sur Instagram sous le même nom, Splash Podcast sans espace. Chers auditeurs et auditrices, n'hésitez pas, vous aussi, à nous poser des questions économiques dans les commentaires de l'émission sur Apple Podcasts et nous prenons toutes vos bonnes idées contre 5 étoiles. À très vite !